Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Voix d'Altaride. Vous trouverez les notes de ce podcast sur sandrone.fr. Je vous propose pour cet épisode des entretiens réalisés sur le stand des chroniques d'Altaride dans deux conventions. La première, le 16 mai, aux Elfiques, à l'école centrale de Châtenay-Malabry. Et la deuxième partie, le 23 mai et le 24 mai, à Geekopolis, à Paris, porte de Versailles. J'espère que ces entretiens vous intéresseront autant qu'ils m'ont intéressé.
Bonjour.
Bonjour.
Donc nous sommes voisins de stand aujourd'hui.
C'est ça.
Alors explique-moi quelle assos tu viens représenter, ce que tu viens faire aux Elfiques.
Alors, je représente Méandre Chimérique, je suis aux Elfiques pour la troisième ou quatrième année consécutive. On est une association de jeux de rôle et de GN qui est basée à Évry, dans l'Essonne.
D'accord.
Et au départ, on était là pour mettre en relation, disons, la communauté autour d'Evry. On maintient des mailing lists, on permet aux orgas de proposer des jeux, aux joueurs de demander ou de rejoindre des parties, etc. etc.
D'accord.
Et puis maintenant, on se diversifie un petit peu. On fait de l'organe murder party, de l'organisation de GN, du départ groupé en GN. On a fait à une époque sur du mass LARP. On le fait un petit peu moins ces derniers temps. Mais on fait encore des venues groupées. Et voilà, on est venu pour... parler un peu de ce qu'on fait, proposer du jeu de rôle, faire découvrir du jeu de rôle, proposer à ceux que ça intéresse de nous rejoindre, parce que de toute façon c'est gratuit et ça permet de trouver des joueurs dans la région.
Donc et vous proposez un service qui ressemble un petit peu à ce que fait Opal ou vous êtes vraiment localisé?
On n'est plus localisé qu'Opal en fait.
Ouais.
Opal a des forums qui sont sur toute la France, je crois, pratiquement. Nous, on est vraiment localisé sur Évry, même si on commence à avoir des antennes, parce qu'on a des amis qui ont déménagé, qui sont
sur Paris
ou sur Nanterre maintenant. Et donc voilà, des fois, on joue sur Paris, on joue sur Nanterre, mais... Après, voilà, on fait aussi plus de l'événementiel et puis du GN derrière.
D'accord.
C'est un peu plus communautaire. On fait un pot mensuel aussi dans un bar pour se retrouver. Et là, tout récemment, on a réussi à obtenir une salle.
Ah, c'est bien ça. Auprès de la mairie d'Evry?
Alors, non, pas auprès de la mairie. Il y a une association qui s'appelle le RERS, le Réseau d'échange, je ne sais plus quoi, des savoirs.
Oui.
On est tombé sur quelqu'un qui aime bien le jeu de rôle et qui trouve que c'est un savoir sympa à apporter. Donc un samedi sur deux, normalement, à Évry, on a une salle le samedi soir jusque pratiquement minuit.
D'accord.
Où on peut proposer, on proposera le plus souvent des tables de jeu de rôle, typiquement du Pathfinder Society, qui est un jeu de rôle conventionné Pathfinder. On proposera tout un tas de trucs maison et on va essayer de faire une murder party environ un mois sur deux.
Ah super. Et donc pour vous retrouver, où est-ce qu'on peut avoir des infos?
Alors, il y a notre site.
Oui.
Méandrechimérique.org qui j'essaye de passer quelques infos dessus, de le mettre à jour.
Okay.
Et normalement sur le site vous avez un email pour nous contacter et là je peux vous inscrire au mailing list, c'est gratuit et vous êtes au courant de tout ce qu'on fait.
D'accord, ok, bah écoute, je te remercie. Je t'ai pas demandé de te présenter.
Non, c'est vrai, je m'appelle Mathieu, je suis rôliste depuis bientôt 20 ans, GNiste et orgas GN depuis 5-6. Voilà.
Ah bah écoute, c'est super. On mettra l'adresse sur le site lorsque on publiera le podcast.
Eh bah merci.
Et merci.
Salut.
Voilà, donc on est cette fois-ci en présence des représentants d'Hesperia. J'espère que je le prononce correctement.
C'est
alors
exactement
qui êtes-vous?
Donc moi c'est Fab, je suis administrateur de Hesperia-rp.net. Et donc on est un serveur de jeu de rôle qui s'appuie sur Minecraft, c'est-à-dire qu'on ne joue pas à Minecraft, on utilise Minecraft. C'est-à-dire que Minecraft c'est une sandbox, c'est un jeu où on peut faire une multitude de choses. Et nous, ça nous a paru un support intéressant pour faire du jeu de rôle.
Ouais, et alors qu'est-ce qui vous a mené vers Minecraft? Parce que des expériences de jeu de rôle en ligne, notamment sur pas mal de MMO, ça existe déjà.
Ouais.
Qu'est-ce qui diffère un peu chez vous?
Alors ce qui diffère, c'est que déjà, ce qui nous a plu dans Minecraft, c'est que c'est un jeu pas cher et c'est un jeu facile à installer et qui marche sur toutes les machines. Donc c'est un moteur assez intéressant déjà techniquement.
Mm-hmm.
Après, le pixel art, l'aspect visuel de Minecraft nous plaît. Et ensuite, disons que c'est le côté sandbox qui nous permet de faire un univers vraiment à notre image, et tel qu'on l'imagine et tel qu'on le veut. Et du coup, les joueurs peuvent influencer cet univers
vous avez construit.
Manière, et c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Oui, parce que dans Minecraft, vous pouvez en fait faire ce que vous voulez avec le décor.
Exactement.
En particulier.
Alors nous, du coup, c'est pas un serveur free build ou un serveur PVP ou un serveur normal de Minecraft. c'est vraiment roleplay, c'est-à-dire que par exemple pour construire une maison, il faut aller faire des plans chez un architecte, il faut aller acheter du bois chez le bûcheron, il faut aller acheter de la pierre chez le tailleur de pierre, il faut des ouvriers, c'est vraiment roleplay à 100%.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est pas j'arrive, je fais ma hutte et je vais chasser, c'est vraiment chacun a son métier, chacun a son rôle, chacun choisit ce qu'il veut faire.
D'accord, ok. Et globalement, qui c'est qui va décider si on est capable d'être ouvrier, architecte, ce genre de choses? C'est une création de personnage au départ?
Alors en fait, c'est exactement ça. Au départ, quand on arrive, on crée son personnage, tout est expliqué sur le site en détail. On choisit son métier, on choisit son origine parce qu'on a un background très très riche, très détaillé. On choisit ses origines, donc on choisit son personnage, son métier, on choisit ses quelques aptitudes qui sont similaires à un système de compétences.
D'accord.
Et en fait, ce métier donc va nous permettre de faire certaines activités, certains crafts, ce qu'on appelle sur Minecraft, crafts. Par exemple, un bûcheron pourra couper des arbres, mais il pourra pas aller miner de la pierre.
D'accord.
Et voilà.
Et ça, c'est limité par la bonne volonté des gens qui participent ou c'est limité un peu par le système?
Alors en fait, tout est RP, c'est-à-dire que D'accord. les gens, ils ont un rôle et ils respectent leur rôle.
Très bien.
Après, on a un système d'administration de maître du jeu qui gère et qui surveille. Le fait est que la communauté est mature et connaît
super,
ses limites. Et on a jamais on a des problèmes comme toutes les communautés des fois sur des petites choses, mais le système de métier est très respecté par les joueurs parce que les gens qui viennent, ils veulent faire du roleplay et savent ce qu'ils font et ils vont pas commencer à casser des trucs à droite à gauche.
Et votre communauté, elle est nombreuse?
Alors en moyenne, on a une centaine de joueurs actifs.
Ah, super,
après, depuis la création du serveur, on a dû avoir 1000-1500 inscrits, mais bon, ça tourne beaucoup, comme toutes les communautés en ligne, je pense. Mais la moyenne de connectés, c'est entre 70 et 80 personnes tous les soirs.
Tous les soirs, donc c'est vraiment un super espace pour faire du roleplay, quoi.
C'est un super espace pour faire du roleplay, c'est très varié, on a des publics de rôlistes très différents, on essaie de pas de plaire à tout le monde, mais on essaie de plaire à un maximum de publics de rôlistes sans gêner les autres, et c'est très très varié.
Et c'est du roleplay, les gens viennent, font un peu ce qu'ils veulent, ou vous avez des scénarios qui sont mis en place, vous avez des intrigues?
Alors il arrive qu'on mette en place des événements, mais nous on est plutôt partisans du roleplay créé par les joueurs, c'est-à-dire que les gens ils arrivent, ils font leur truc, et au fur et à mesure de l'aventure il se passe des choses. Par exemple, il y a un système politique en ce moment sur le serveur, il y a un roi, et il n'y a pas longtemps, le roi a été viré par le peuple. Le roi a été viré, il y a un nouveau livre de loi qui s'est mis en place, il y a plein de choses qui se sont mis en place et tout est 100% roleplay, c'est les joueurs qui font.
Ah,
nous, en tant que maître du jeu, on modère, on administre de loin, mais on n'a pas d'influence directe sur le déroulé du roleplay.
D'accord, et donc en fait, ça tourne tout seul, quoi.
Ça tourne plus ou moins tout seul.
Enfin, j'imagine qu'il faut beaucoup d'investissements au niveau administratif. Ouais. Au niveau informatique aussi, vous avez mis des choses en place particulières par rapport à Minecraft?
Sur le serveur, en effet, déjà, on a un texture pack personnalisé dans une ambiance médiévale. On a les devs qui nous ont fait quelques petits ajouts. Par exemple, sur Minecraft, il n'y a pas ça, mais nous, on a des serrures sur les portes.
Ah, d'accord.
On a des placards, des vitrines où on peut ranger des choses. On a de la nourriture qui a été ajoutée, évidemment, pour enrichir le roleplay de taverne, tout ça, des bières, des trucs.
Ouais, super.
C'est très varié, très multiple, et on a pas mal d'ajouts.
Ok. Et vous avez des graphistes, alors, qui bossent avec vous, j'imagine, pour
En ce moment, on a deux graphistes. Oui, il y en a qui bossent plus ou moins, ça dépend de leur disponibilité.
En ce moment, c'est
un peu le temps difficile, mais c'est vrai qu'on recrute d'ailleurs. On recrute des développeurs et des graphistes parce que c'est un peu ce qui pêche. On a beaucoup de rôlistes, mais on n'a pas beaucoup de techniciens.
Ouais.
Mais du coup, on a quand même des graphistes. On prépare des goodies, on a des badges déjà, par exemple, sur notre stand. On a plein de choses. Enfin, on prévoit plein de choses. Après, c'est long à se mettre en place.
Évidemment, ouais.
Et on essaie de se concentrer sur le roleplay. Donc, tout ce qui est annexe, communication, goodies et tout, ça vient petit à petit. Mais c'est encore en évolution.
Ok, super. Et au niveau financier, vous avez des dépenses liées au jeu?
Alors en fait, on a un serveur qu'on paye 60 euros par mois et c'est uniquement les dons qu'il paye.
C'est uniquement les dons qu'il
uniquement
paye.
Uniquement les dons.
Okay. Ouais. C'est quoi? C'est des dons PayPal?
C'est PayPal. PayPal. On a un truc téléphonique dont je ne me souviens plus le nom, mais on a des dons internet lambda.
Ok. Ah bah c'est en tout cas c'est une très très belle aventure que j'invite tout le monde à aller visiter. Tu disais, c'est une ambiance plutôt médiévale, fantastique. Il y a du fantastique dedans ou non? C'est vraiment médiéval.
Enfin, il nous arrive de créer des événements où il y a un peu de mystère parce qu'on aime bien,
bien sûr,
mettre une certaine ambiance. Mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de choses comme
d'accord.
ça.
D'accord. Donc ça simplifie les choses pour la gestion, j'imagine.
Oui.
Et puis ça vous donne une spécificité relativement importante puisque la plupart du roleplay que j'ai pu faire sur des jeux comme ça, c'est dans des jeux où la magie est présente et ça pose beaucoup de problèmes justement pour pouvoir jouer ensemble.
C'est délicat. Mais nous, on a voulu en fait créer un background et un univers qui est vraiment pas réaliste parce que bon, ça reste Minecraft, mais l'univers en soi est crédible en fait.
D'accord.
et il y a des choses qui sont inspirées de Minecraft, du coup qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais. Mais l'univers est vraiment vraisemblable et réaliste et se rapproche le plus possible du médiéval.
Ah bah c'est super, écoute. Et alors Hesperia, c'est quoi? C'est le nom du serveur? C'est le nom du monde?
Hesperia, ouais, c'est le nom du serveur, c'est le nom de la ville aussi.
D'accord.
Parce qu'en fait, tout se joue dans une ville,
ouais.
C'est, qui s'appelle Hesperia et qui est une ville donc sur une île éloignée de l'ancien monde.
Okay.
En fait, c'est une sorte de nouveau monde en fait, où on D'accord. arrive en tant qu'esclave. Et tous les nouveaux joueurs arrivent en tant qu'esclaves et en gros doivent se démener pour sortir de leur condition d'esclave, évoluer, devenir garde, consul, maire, roi, n'importe quoi. Il y a plein de choses, ça dépend du roleplay, ça dépend de ce que chacun veut faire.
Ce qui veut dire que finalement, quand un nouveau joueur arrive, bah, il ne va pas se retrouver perdu dans un jeu où il n'aura rien à faire. Il a directement des objectifs très clairs, quoi.
Exactement. Bah, l'objectif principal, c'est de sortir de cette situation d'esclave. Ouais. Parce qu'évidemment, on ne va pas rester esclave pendant un an sur le serveur, sinon ce ne serait pas très ludique.
Oui.
Mais l'idée, c'est quand même qu'on a un système d'esclavage qui nous permet de mettre les nouveaux joueurs face à la frustration. Et du coup, on veut des vrais rôlistes. Et en même temps, c'est aussi ouvert à des gens qui ne sont pas expérimentés. Et du coup, l'esclavage permet ça, en fait, parce que c'est plein de contraintes, c'est plein de sévérité et du coup les gens sont tout de suite face à des limites et ils voient le potentiel de roleplay du serveur.
D'accord.
C'est pas j'arrive et je fais ce que je veux, c'est plus compliqué que ça, mais c'est ça qui est intéressant.
Donc vous êtes très exigeant finalement, bah, c'est plutôt une bonne chose.
Je te remercie beaucoup. Ouais, en même temps...
Oui, bah, je t'écoute. En même temps vous assouplissez les choses quand vous avez besoin.
On s'adapte.
D'accord, vous vous adaptez, super. Ouais. Donc vous êtes exigeant mais pas élitiste, quoi.
Exactement.
Ok, super. Quelque chose à ajouter?
Non, c'est tout à fait... Je
on pense va
que
peut-être
redire
le nom du... l'adresse du site.
Oui, alors, c'est esperia-rp.net.
Ok, super.
Et sur le site, il y a toutes les informations pour s'inscrire, créer un compte, s'informer, etc.
Eh ben, je te remercie. Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on est au Zelfic, c'est l'édition des 10e anniversaire,
je crois. C'est le 10e, oui.
Et alors, qui es-tu?
Toi, moi, je m'appelle Pesseur. Donc Pesseur, c'est mon surnom dans l'association.
Ok.
Et je suis le président de l'association Elfic qui organise cet événement.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que cet événement exactement?
Alors Elfic, ça veut dire événement ludique sur le fantastique et l'imaginaire à Centrale Supélec. C'est une convention qui dure le temps d'un week-end où nous invitons des illustrateurs, des éditeurs, mais également où nous proposons un marché médiéval, des reconstitutions médiévales aux personnes qui habitent dans les villes alentours, mais également, comme nous sommes sur un campus d'école, aux étudiants de l'école.
D'accord. Et c'est une manifestation qui a lieu tous les ans?
C'est une manifestation qui a lieu tous les ans. L'équipe organisatrice change tous les ans, à cause du, comme nous sommes tous des étudiants, à cause du cursus scolaire, ce qui fait que nous avons la joie de pouvoir voir l'événement évoluer au fil des années avec les motivations de chaque équipe.
Ah, super. Et... qu'est-ce qui caractérise cette édition pour les gens qui, du coup, nous écouteront en l'ayant peut-être manqué?
Ce qui caractérise cette édition, je dirais que c'est la tentative de proposer de nouvelles activités.
Oui.
Donc cette année, nous avons invité une équipe de Quidditch locale à venir présenter ce sport et à venir donc à profiter du lieu pour pouvoir s'entraîner également. Et nous proposons également le dimanche un spectacle de fauconnerie. Uniquement cette année. Peut-être ça sera reproduit les années prochaines, mais c'est la première année que nous proposons de la fauconnerie aux Elfic.
D'accord. Et en dehors de ça, j'ai vu des stands, beaucoup d'illustrateurs. Vous avez un petit salon du livre aussi.
Exactement.
Voilà, avec quelques auteurs et maisons d'édition qui sont présentes. Vous avez pas mal de jeux de rôle.
Exactement, oui.
Voilà. Vous avez des jeux à disposition aussi.
C'est ça. Nous avons la partie jeux de société où nous faisons appel à une association extérieure, donc les jeux sont faits, mais également à une association de l'école qui gère les jeux de société pour présenter justement et proposer de jouer à ces jeux.
Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir prendre la main pour pouvoir organiser un événement comme celui-là?
C'est le fait de pouvoir mêler l'organisation d'un événement,
donc
tout ce qui est logistique, tout ce qui est mail, etc., en amont, et un univers qui me plaît énormément, donc le médiéval fantastique.
D'accord. Et donc là, ça va durer, ça a commencé ce matin à 9h et ça dure jusqu'à dimanche.
Dimanche 17-18h.
Et c'est en continu tout le week-end, c'est ça. Ça ne ferme pas pendant la nuit.
Non, pendant la nuit, nous proposons des murders ou des parties de jeux de rôle nocturnes dans le bâtiment.
D'accord. Et c'est l'école qui met à votre disposition ce bâtiment.
Exactement.
D'accord. Et vous avez des partenaires qui vous soutiennent pour l'organisation de l'événement?
Alors, nous avons principalement des partenaires comme le CROUS, par exemple,
vu que
nous sommes un événement qui est aussi à vocation des étudiants.
Oui.
Nous avons également les villes alentours, les mairies, qui nous aident au niveau matériel, mais également à travers des subventions. Et également donc, l'école en elle-même, qui nous apporte aussi des dons pour pouvoir financer notre événement.
Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé encore, mais l'événement est totalement gratuit pour les visiteurs.
C'est ça, oui. Et nous tenons à le rester.
Vous faites payer, je crois, uniquement les boissons, la nourriture, éventuellement, à des prix raisonnables.
C'est ça.
Ok, tu as une idée du nombre de visiteurs qui passent dans un week-end des Elfiques, en général?
Ça dépend des années, ça dépend du temps.
Ouais.
Cette année, nous attendons environ 1500 personnes.
D'accord.
Avec 500 personnes au banquet que nous organisons le samedi soir.
Ah oui.
Sachant que par rapport à l'année dernière, par exemple, ça fait environ 100 personnes de plus de prévu pour le banquet.
Ouais.
Et au niveau affluence, je crois que nous comptons, par rapport à l'année dernière, doubler le nombre de personnes qui viennent en journée.
D'accord. 500 personnes pour le banquet, ça doit être une sacrée organisation aussi. C'est une équipe spéciale qui s'en occupe ou...
Non, c'est toujours le staff qu'on peut voir sur l'événement avec ses pulls.
Oui, les pulls verts.
Donc nous sommes environ 35. Et donc, en quelques minutes, nous transformons la salle où nous nous trouvons actuellement.
D'accord.
Pour accueillir donc ces 500 personnes pour le banquet.
C'est très impressionnant en tout cas. Bah écoute, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour présenter l'événement?
Eh bien, si vous n'êtes pas venu aux Elfiques cette année, venez l'année prochaine.
Exactement, pour la 11e édition. Donc.
Exactement.
Avec une nouvelle équipe ou...
Avec une nouvelle équipe.
Avec une nouvelle équipe. Ok, bah je te remercie.
Merci à vous.
Tranquillement, donc on est toujours aux Elfiques 10e édition. Et on a avec nous cette fois-ci. Bah tu vas te présenter?
Bah oui. Donc sur Net, je m'appelle Estrel, donc je fais partie. Ouais. Je suis meneur sur la communauté de Virtua JDR.
Ok.
Donc qui est une communauté qui organise des jeux de rôle en ligne, majoritairement via TeamSpeak.
D'accord.
Et donc motorisé par des systèmes de table virtuelle.
Oui.
Majoritairement Roll20 et Fantasy Ground.
D'accord. Et pas Rollisteam par exemple?
Si, on a un meneur sur Rollisteam.
D'accord, ok.
Mais la mode de Rollisteam est vraiment passée.
Y a pas de
mieux pour aussi cher.
Ok. Et alors, vous êtes une communauté qui propose du jeu de rôle par table virtuelle.
C'est ça.
Y a beaucoup de monde qui vient jouer avec vous?
Alors, il y a beaucoup de monde qui vient jouer, relativement. On tourne autour d'une trentaine de joueurs par semaine à peu près.
Ouais.
À peu près. Donc, à raison de, en général, les parties se jouent à raison d'une setup hebdomadaire, donc une partie par semaine.
Ouais.
En général. Là, il faut savoir que donc aujourd'hui, donc mi-mai, on est face à une vague de nouveaux.
Ok.
Donc on a bénéficié pour ça de beaucoup de du let's play d'aventure sur YouTube.
Ok.
Donc la partie du joueur du grenier.
Oui, oui.
Ça d'accord. Nous a apporté beaucoup de monde.
Ah, ok. C'est
donc on a une vague de nouveaux là. On risque de manquer de MJ. C'était l'inverse il y a encore 2 mois.
Ok.
Mais là, on risque vraiment de manquer de MJ pour le coup.
Donc tu veux lancer un appel au MJ qui nous entendrait par exemple?
Au MJ et aux joueurs. Au MJ, ouais. Aux joueurs. Nous, on est toujours prêts à accueillir. Il ne faut pas hésiter à passer sur le site, à passer sur le TeamSpeak. Il ne faut pas hésiter, on est là pour accueillir, on est là pour échanger.
Et quel investissement ça demande de jouer en ligne comme ça?
Alors, en tant que joueur ou en tant que meneur?
Bah, les deux. Commençons par le joueur.
Commençons par le joueur. Donc, dépendant du meneur, du joueur, en théorie, on ne demande pas beaucoup plus d'investissement qu'une table normale. On demande bien sûr de la ponctualité.
Oui.
On demande un minimum de présence forcément.
Oui.
Ou à défaut de prévenir quand on ne peut pas accueillir une partie. Venir à une partie,
ouais.
Mais sinon, ensuite, effectivement, il se peut qu'on se retrouve sur une table qui utilise Fantasy Ground.
Oui.
Pour laquelle le meneur n'a pas la licence Ultimate. Ça peut arriver, c'est très rare, mais
oui.
Ça peut arriver. Sinon, bah, on n'a pas plus d'exigences que pourrait l'avoir un meneur lambda. Ça dépend beaucoup du meneur.
Alors, Fantasy Ground, si je me souviens bien, si tu as la licence en question, tu peux accueillir les joueurs. Et
alors,
si tu ne l'as pas,
exact.
Ils doivent avoir une licence chacun, c'est ça,
ça. Il y a deux types de licences. Il y a la licence normale, qui, je crois, est à 40 euros, quelque chose comme ça, à peu
ouais.
près, ou 29, je ne sais plus. Et ensuite, il y a la licence Ultimate, qui est à 149.
Ah oui, ça voilà. Fait mal, oui.
Mais celle-ci permet d'accueillir tous les joueurs. Mais ce n'est pas
d'accord.
Le seul soft qu'on utilise sur le site.
Oui.
Et on a quand même 2 meneurs qui tournent sous Ultimate. Hein.
D'accord. Et quel type de jeu vous proposez en général?
Alors... là actuellement
ouais.
Donc actuellement on a donc sur la dizaine de tables qui tournent actuellement.
Oui.
Donc on a beaucoup de jeux, on a pratiquement moitié de jeux mainstream vraiment.
D'accord.
Donc on a des tables de vampires qui se montent.
Oui.
On a des gens qui sont en train de tester des D5 pour
oui,
voir
bien
si
sûr,
on va
ouais.
en faire quelque chose. On a des tables de Shadowrun qui tournent.
Mm-hmm.
Donc des choses assez mainstream. Et ensuite, on a des jeux moins connus ou maison.
D'accord.
Beaucoup de jeux maison. C'est Pendant une période, c'était quasiment que ce qu'on tournait. Bon, là, un peu moins. Donc, on a des jeux maison qui sont faits par les meneurs ou qui sont adaptés par les meneurs. Là, on a par exemple une partie de Apocalypse, qui est D'accord. donc un Pokémon dans un monde post-apocalyptique.
Ok.
Par exemple, hein, c'est...
Bon, c'est intéressant, ça peut être fun.
C'est, ça l'est, ça l'est. Tu me demandais, je crois, l'investissement en tant que meneur.
Oui, l'investissement en tant que meneur. Ouais,
alors, l'investissement en tant que meneur, bien sûr, il y a un investissement de temps. La préparation sur table virtuelle peut autant dépendre finalement d'une table qu'une table physique, mais il faut savoir qu'on a les outils à gérer.
D'accord.
Il y a les outils à gérer. La majorité d'entre nous utilisent des illustrations comme support visuel. Ouais. Certains utilisent des cartes. Et ça, bah, on va aller chercher sur le net. Oui, on a quelques sûr, tarés ouais. qui font de la 3D et qui modélisent leur PNJ comme ça. On en a deux. Mais la plupart de nous, on fait des recherches. Donc, et ensuite, le temps de préparation classique d'une partie, suivant de comment ton jeu se prépare. C'est pas la même chose de préparer du Rollmaster. On n'en oui. fait pas sur le site.
D'accord.
Que de préparer, je vois qu'il y a du sombre derrière, par exemple, ce genre de jeu-là. Oui. C'est pas la même chose. Donc...
Comme en jeu de rôle classique, finalement.
Comme en jeu de rôle classique. Les contraintes ne sont pas les mêmes, mais les variations sont les mêmes.
Ok, et comment tu convaincrais quelqu'un qui pratique déjà du jeu de rôle virtuel de venir le faire via votre plateforme ?
Alors, déjà, je dirais que c'est pas parce qu'il joue chez nous qu'il doit arrêter le jeu de rôle sur table, physique.
Oui, bien sûr, non, mais je parlais vraiment de plateforme virtuelle.
Alors, déjà, l'avantage de la plateforme virtuelle, c'est qu'on a des facilités pour jouer la semaine.
Oui, bien sûr, oui.
L'horaire roi sur notre site, ce n'est pas le seul, mais c'est l'horaire roi, c'est 21h minuit oui. en semaine.
D'accord.
Donc ça, c'est tout à fait faisable avec un boulot. On peut finir à minuit et se lever à 6h le matin. Et on le fait. Ensuite, il y a le... Bon, c'est un problème que moi, j'avais quand j'étais adolescent, oui. le problème du local. On ne l'a pas.
Oui, tout à fait.
Vu qu'on fournit nos serveurs SimSpeak, on n'a pas de problème de local. On n'a pas non plus de problème logistique. Ma table physique, il faut que je fasse 1h30 de transport pour y aller. Sur table, je me connecte tout simplement.
D'accord. Et par exemple, dans mon cas, j'ai une campagne régulière en ligne sur Ambre. Mmh. Qu'est-ce qui pourrait nous motiver à venir passer par votre site, par exemple ?
Alors, qu'est-ce qui pourrait venir vous motiver ? Déjà, avoir accès au pool de joueurs qui est là. Puisque si votre table a un petit turnover ou même recrute,
ouais.
eh bien nous on est là. Donc on peut offrir cette vitrine de recrutement.
Ouais.
Et en plus ça nous offre une vitrine à nous, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Okay, ouais.
Sinon, les conseils sur les outils. D'accord, les conseils oui, sur les outils, bien sûr. Bon, effectivement, si t'es meneur expérimenté sur table virtuelle, t'as peut-être pas autant besoin de conseils que quelqu'un qui voudrait se mettre à table virtuelle, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Mais sinon, quoi d'autre ? Et la communauté, parce qu'on est sympa. Il y a des trolls. Voilà. Il y a des trolls sur ce site, mais il y a des trolls sympas.
Ah,
et ça joue beaucoup.
C'est important, hein, les trolls sympas, ouais. parce que les trolls pas sympas, on essaie d'éviter en général.
Oui. On les parque.
On l'est pas, ok. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nous donner envie de venir ?
Et
est-ce qu'on trouve des joueurs facilement chez vous ?
Eh bien, justement, c'est le moment. Merci, joueur du grenier. On a une vague de nouveaux qui ne demande qu'à jouer.
Okay.
Et donc, forcément, on espère avoir des meneurs qui suivent. Cet été, vu qu'on s'attend à l'apocalypse de nouveau, on oui. va avoir des tables qui vont se monter. On essaye de motiver les meneurs en sens à proposer d'abord aux nouveaux. On essaye. Donc c'est vraiment le moment de venir. Là, je pense que le mois prochain sera vraiment oui. le mois des débuts de partie.
Le mois de juin,
je l'espère.
Donc.
Oui, je l'espère. Vraiment.
Donc il faut venir voir dès le début du mois de juin et voir comment ça évolue sur VirtuaJDR.
C'est ça, VirtuaJDR.net.
.net.
www.virtuajdr.net.
Ok, écoute, je te remercie beaucoup.
Mais merci à toi.
Bonjour, nous sommes le dimanche 24 mai 2015 à Geekopolis. Il est 9h30 du matin et le public commence à arriver. Nous sommes avec Benoît et Sophie sur le stand des Chroniques d'Altarid. Vont bientôt arriver des renforts en la personne de Klooms, illustrateur de Fils des siècles. Et nous allons, j'espère, faire beaucoup de belles rencontres aujourd'hui. Bonjour, Benoît Chérel. Nous sommes à Geekopolis.
Bonjour.
Et pourquoi es-tu à Geekopolis, cher Benoît ?
Eh bien, on est là pour présenter les chroniques d'Altarid sur un stand. Et puis, en tant qu'auteur, je présente aussi mon jeu de rôle Fils des siècles, avec sa bêta ouverte.
Ok, et alors, c'est le deuxième jour de Geekopolis. Est-ce que la première journée s'est bien passée ?
Tout à fait. Alors, un début un petit peu difficile, mais on va dire que les gens commencent par découvrir un peu, tourner, rencontrer les différents univers qui sont présentés dans le festival. Et puis ensuite, ils s'intéressent à ce qui les attire particulièrement. Et du coup, en fin d'après-midi, on a eu beaucoup de gens qui sont venus discuter longuement au sujet des deux projets. C'était assez intéressant, beaucoup de rencontres.
Ok, bah écoute, de mon côté, à peu près la même chose. Avec Morgane, comme prévu, nous avons fait notre conférence sur l'adaptation de romans en jeu de rôle. On a pas mal discuté. On était en compagnie d'Alexis Flamand, auteur aux éditions de L'Homme sans nom, qui adapte un cycle de romans qui s'appelle Le Cycle d'Alamander. J'espère que je le prononce correctement d'ailleurs, en jeu de rôle. Et la discussion a été très intéressante, le public très chaleureux. Ça s'est vraiment super bien passé. Donc ça laisse bien présager pour la conférence que nous allons faire tout à l'heure.
Voilà, sur les chroniques d'Altarid.
Eh bien, merci Benoît. Alors, les Geekopolis, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui contribuent très généreusement aux chroniques d'Altarid. Et ici, nous avons un superbe illustrateur. Alors, qui es-tu, superbe illustrateur ?
Je suis Nico Zor, Nicolas Le Tutour. J'ai plusieurs signatures, donc déjà un peu schizophrène. Et okay. Je présente... Je suis du côté de Métropolis, stand 24. J'arrive jamais à retrouver. On présente la bande dessinée Lux Quest et j'y présente également mes travaux en illustration pour le jeu de rôle Insectopia ou mes travaux dans d'autres domaines d'illustration.
Super. Alors pour les chroniques, tu nous produis des petits dessins humoristiques régulièrement. Donc bah, merci beaucoup à toi. Ah, et alors dans le projet Insectopia, qui est le projet jeu de rôle en fait dont tu parlais. Alors qu'est-ce que tu fais dedans ?
Alors pour le moment je me suis cantonné au caractère design des personnages.
Ouais.
J'ai aussi prêté, j'ai soutenu, donc j'ai pas toujours cherché à faire du business sur leur dos parce qu'ils démarraient, il faut soutenir, puis le projet est magnifique. Donc j'ai fait une première illustration que je leur ai offert.
Ouais.
Une seconde qui n'est pas montrée parce que là ils ont réussi un super crowdfunding. Et donc, il va y avoir normalement un 300 pages couleur qui va sortir.
Super.
Donc, il y a une autre illustration qui a été faite. Elle est sur mon stand. Si vous venez la voir, vous la verrez en avant-première. Mais voilà.
Sachant que ce sera diffusé après la convention, ça risque d'être dur, mais...
Merde.
C'est pas grave.
Bah, essayez de voyager dans le temps, débrouillez-vous.
Voilà, c'est le bon endroit pour faire ça. Ok, je te remercie.
Merci,
on trouve donc sur Insectopia, dans le kit de présentation, tu as...
Oui. J'ai fait quelques feuilles de personnages et en quatrième de coup, vous avez un personnage inquiétant avec des gros yeux rouges, voilà.
Ah bah super. Moi, j'ai eu beaucoup de remarques très positives sur l'aspect visuel d'Insectopia et sur le kit qui a été présenté pour le moment, donc bravo.
Il y a une très belle équipe de dessinateurs, puis Insectopia est vraiment très très bien, porté par Florent Moraga qui est vraiment quelqu'un de super gentil, donc vraiment c'est une superbe aventure et je suis sûr qu'ils iront très très loin parce que vraiment l'accueil est super super sympa.
Ok, et ta petite BD alors, enfin ta petite BD que tu présentes, alors qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit de Lux Quest. Lux Quest narre les histoires de quatre enfants des mondes d'en dessous, enfin des mondes infernaux, qui font une grosse bêtise et qui sont envoyés en exil sur Terre, donc dans le monde des pas passés. Et donc ils sont envoyés dans une école privée religieuse où ils vont devoir affronter leur alter ego lumineux pour retrouver les portes qui leur permettraient de retrouver leur cher enfer.
Ok, et ça se trouve où ça ?
Alors comme ce sera diffusé après, je ne vais pas vous dire le stand, mais vous pouvez trouver ça, alors la vache, est-ce que j'ai un site ? Mais si vous tapez luxquest.fr, vous allez trouver assez aisément. Il y a aussi une page Facebook, donc...
Ok, bah écoute, merci beaucoup.
Ben, merci aussi aux Chroniques d'Altarid de me faire une petite tribune. Lisez les Chroniques d'Altarid, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Un nouvel entretien à Geekopolis. On se trouve désormais avec le représentant des ateliers Manmaker. Alors, qui êtes-vous ? Que faites-vous ?
Alors, je fais de l'équipement pour jeux de rôle grandeur nature, principalement. De l'arme, du costume mousse et du gros monstre.
Oui, on a vu tout à l'heure un Cthulhu absolument monumental passer.
Ouais, il dégage bien le passage quand il avance. Et voilà, bon, c'est un gros bestiaux, lui.
Et alors, c'est des costumes qui sont préparés dans l'atelier, qui sont vendus ensuite, qui sont prêtés, ça se passe comment?
Alors, en grande partie, ils sont vendus, c'est des associations, au niveau des gros costumes, c'est des associations de jeunes qui me contactent et qui m'envoient un dessin, ou alors je leur fais une proposition, des fois j'ai des cartes blanches, ça c'est super cool.
Oui.
Voilà, sinon après aussi, j'ai aussi des compagnies de théâtre qui m'ont demandé quelques costumes ou des bouts de décor, des trucs dans le genre.
D'accord. Voilà. Alors, je t'ai pas demandé ton nom.
Alors, moi, c'est Julien.
Comme moi, Julien, voilà. Parfait. Bah, voilà. Enchanté, Julien.
Les Juliens se rencontrent.
Exactement. Alors, et ça fait longtemps que vous vous êtes lancé dans cette...
Eh ben...
Moi, je dis vous, c'est toi tout seul ou tu as une équipe?
Alors, c'est moi
toi
tout seul. L'équipe, c'est plus pour porter les costumes.
D'accord, ok. Donc, c'est toi tout seul. Alors, ça fait longtemps que tu t'es lancé dedans?
Eh ben, ça fait... Ouh là là, j'ai du mal à resituer. C'est à peu près quand j'ai commencé le GN, peut-être un an après. Donc, ça doit faire 9 ans.
9 ans, d'accord. Donc on a pu voir un gros costume de Cthulhu dans le festival Geekopolis, et ça prend combien de temps à fabriquer un costume comme celui-ci?
Alors pour le Cthulhu, ça a pris environ 80 heures, donc voilà.
Ouais.
Parce qu'il y avait toute l'armature à faire au niveau du torse, ça fait un genre de cockpit dedans en fait.
D'accord.
Et il y avait aussi les rehausseurs, les bottes pour être surélevés. En gros là il doit toiser à peu près à 2 mètres, 2 mètres 10.
Oui, c'est ce que j'allais demander.
Donc voilà, c'était ça.
Ah ouais. Et à partir de quel matériau tu fais ça?
Alors souvent je vais dans les magasins de bricolage et je chope pas mal de trucs qui m'intéressent. Après sinon je commande sur internet de la plaste azote ou alors de la mousse de tapis de sol Décathlon.
D'accord, c'est ce que j'allais dire. Je me souviens que quand j'avais fait du GN, on avait fabriqué des armes effectivement à partir de ça.
Alors maintenant moi aussi j'ai commencé avec la mousse comme ça, puis maintenant je prends vraiment de la plaste azote pour les armes.
Oui, c'est ce qu'on avait pris ensuite, tout à fait.
Voilà, c'est une meilleure qualité, plus facile à découper, à mettre en forme et tout ça.
Ouais.
Mais la Décathlon, elle me sert à faire tout ce qui est bouclier, armure, voilà, les pièces de déco sur des gros costumes, ça va très bien.
Et après, latexage, peinture
Latexage, peinture, voilà.
Donc une bonne finition. Et les armatures, alors, vous prenez quoi pour les fabriquer?
Alors du tube de PVC.
Tube de PVC, d'accord.
Ouais.
Okay.
Ça peut sembler faire un peu bricolage, elles sont pas aussi lourdes que ce qu'ils ont dans l'air.
D'accord.
Parce que par exemple, le Cthulhu, on pourrait se dire, il fait combien de kilos et tout. Et je crois bien que le costume en lui-même, la partie haute, elle doit faire moins de 6 kilos.
D'accord, c'est tout à fait raisonnable.
C'est juste qu'il a son poids qui se déporte un peu vers l'avant, donc il peut être un peu déséquilibré. Donc il faut un peu forcer pour pas se casser la figure, quoi. C'est surtout ça.
Ok. Et alors, tu as des exemples de GN où tes costumes ont été utilisés?
Alors, mon association historique, où je participe beaucoup, c'est l'association Kontsu.
D'accord.
Donc c'est en Savoie.
En Savoie, ok.
Voilà. Bah, c'est d'ailleurs là-bas où je suis situé principalement.
D'accord.
Mais après je fais des livraisons dans toute la France. J'ai eu des commandes en Bretagne aussi sur le camp du dragon.
D'accord.
Pour le camp du dragon, j'ai fait 2 golems et un ent, enfin une sorte d'un arbre et tout ça. Après prochainement, il y a peut-être un GN qui s'appelle le GN Horde qui va me commander des costumes. Je vais pas dire lesquels parce que peut-être que certains vont participer.
C'est une surprise pour les participants, bien sûr.
Voilà. Et sinon, pour une association de Lyon qui s'appelle Neverland, j'ai fait un gros mutant.
Ouais.
Et après le Cthulhu, pour la petite parenthèse, le Cthulhu c'est un Cthulhulu en fait.
D'accord.
Parce qu'en fait, il est sorti sur un GN Pokémon.
Okay.
Où il y a eu des pokécultistes qui ont convoqué le grand ancien Poké-Toulou, Cthulhulu, voilà.
D'accord. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver tout ça?
Alors, j'ai une page sur Facebook où on peut retrouver mes photos.
Ouais.
C'est simple, il faut juste taper Atelier Mad Maker et on me trouve tout de suite.
Ok, super. Bah, je te remercie beaucoup.
Et ben de rien.